Alors, de Saint-Léon, c'est comme tous les gens de cette époque, on a peu de renseignements sur sa jeunesse, parce que il est surtout connu vers la fin de sa vie, enfin, si j'ose dire. Donc, il est né probablement vers la fin du IVe siècle, à Rome, de parents toscans. Et il va conseiller le pape Célestin Ier, lorsque, souvenez-vous, Nestorius d'un côté et Cyrille d'Alexandrie de l'autre, donc le Nestorien et le monophysite, s'adressent à Rome en 430. Donc il va conseiller le pape. Il va également inciter Saint Jean Cassien à rédiger un traité contre Nestorius. Et il combat également les Manichéens et les Ariens qui sont actifs à Rome. Donc les Manichéens, vous vous souvenez que Augustin s'était frotté à eux. Les Ariens. Et il inspire aussi le combat anti-pélagien des papes de cette époque, Innocent Ier, donc Célestin Ier, et Sixte III. Et il est élu pape en 440, alors qu'il conduisait une mission de réconciliation en Gaule. Et
Il
c'est...
était plagiat. Il n'était pas au conclave. Il n'y avait pas de conclave.
Non,
Ah,
non, il
d'accord.
n'y avait pas de conclave à l'époque. Il est élu par le clergé romain, en fait.
C'est une mission de réconciliation avec qui?
Oh, bon, probablement des évêques qui devaient se disputer. Ça arrivait beaucoup, hein, parce qu'ils avaient des grands biens. Alors, c'est le 44e pape de... Vous vous rendez compte, hein, on est déjà au 44e pape en 440. C'est-à-dire qu'à l'époque, surtout dans les premiers siècles, être pape, c'était prendre un accessit pour le martyr.
Les trois premiers siècles,
il partait assez vite, hein. Alors, il va... exercer un grand ascendant sur les empereurs d'Occident, Valentinien III, sa mère aussi, Galla Placidia, qui est assez connue, et puis, oui, à cause de ça, et Théodose II. Il gouverne la ville de Rome. Parce que finalement, la tutelle byzantine devient extrêmement, comment dire, oui, voilà, enfin, le duché de Rome est quasiment indépendant. Donc, il gouverne la ville de Rome, l'administre, secourt les foules, avec tout le système de l'annone qui avait été organisé avec les diaconés, de la ville. Il anime aussi l'épiscopat italien. Il reprend un peu la fonction qu'avait eue Saint Ambroise, qui avait été le grand inspirateur des nombreux évêques d'Italie. Mais c'était Ambroise qui avait évidemment le plus de prestige ou de stature. Et là, ben, finalement, c'est Léon qui lui succède dans cette tâche, on pourrait dire, informelle. Hein. Et il traite avec les chefs barbares, alors c'est l'iconographie l'a rappelé, avec Attila notamment, sous les murs de Rome quasiment, aussi avec Jean Séric 3 ans plus tard, alors Attila 452, Jean Séric en 455. Et évidemment, dans sa lutte contre les Pélagiens, et ben, il va avoir aussi beaucoup d'influence sur l'autre rive de la Méditerranée, sur l'église d'Afrique, qui est une église latine. Hein. Alors, on peut dire que certainement que Saint Léon est premier évêque de Rome à avoir vraiment conscience de l'importance de sa fonction. Il a conscience que son autorité lui vient de Pierre et qu'elle est donc supérieure à celle des autres évêques à cause du siège qu'il occupe. Et cette conscience de sa primauté, elle transparaît dans ses sermons et dans ses lettres. Et c'est la raison pour laquelle il refusera le canon 28 du Concile de Chalcédoine, qui voudra soumettre les troisième et quatrième patriarcats, Alexandrie et Antioche, à Constantinople. Puisque Constantinople, le dernier créé, si j'ose dire, est le siège de l'empereur, et du coup, le patriarche local estime qu'il est supérieur en dignité au patriarche dont les sièges sont historiquement plus anciens et d'une certaine manière plus assurés aussi. Donc Antioche, qui était quand même le premier siège de Saint-Pierre. Et puis donc la première grande ville chrétienne de l'Orient, et via Alexandrie qui devient aussi la première grande ville chrétienne de l'Orient, enfin avec Antioche à peu près dans l'Antiquité aussi. Hein. Et donc Constantinople à l'époque c'était qu'une bourgade, hein, c'était la petite Byzance, voilà. Donc face à cela, Léon considère que c'est une sorte de mainmise indue. Alors c'est pas de la jalousie en disant mais c'est vraiment la prise de conscience que ce qui fait la primauté dans l'Église, c'est pas le lieu où réside l'empereur, mais c'est la succession de celui qui a été le chef des apôtres, le dernier siège du chef des apôtres, c'est-à-dire Rome. Sinon, l'empereur, il a aussi résidé à Trèves, il a aussi résidé à Sirmium, etc. Et ces villes ne sont pas devenues tête de l'Église. Alors, vis-à-vis de l'empereur, il revendique l'autonomie, ce que ne fait pas véritablement le patriarche de Constantinople, hein, qui est parfois un simple fonctionnaire, un secrétaire de l'empereur qui est bombardé. Patriarche et évêque en quelques semaines. Donc, il revendique l'autonomie vis-à-vis de l'empereur, d'autant plus facilement qu'à l'ouest, en Occident, dans la partie occidentale de l'Empire, le pouvoir impérial a quand même beaucoup perdu de son importance. Et d'un autre côté, le pape, à la volonté de ne pas s'immiscer dans les affaires de l'Empire. Mais néanmoins, l'empereur se doit de créer les conditions extérieures du bon développement de l'Église. Et non intérieures. Donc c'est pas à lui d'instituer des lois morales, si vous voulez, etc. Il laisse ça au pape. Mais il doit au moins assurer la sécurité, enfin un certain nombre de conditions qui permettent à la société de vaquer aussi à ses affaires spirituelles. Et on verra Léon intervenir dans les controverses christologiques autour du Concile de Chalcédoine. C'est pour ça qu'on est toujours dans ce grand siècle de la lutte contre Arius. Alors, Léon se laissait conduire par deux grands principes, humilitas et moderatio. La humilitas, si vous êtes allé sur le lac Majeur, vous voyez partout d'immenses palais de la famille Borromée où c'est marqué partout Humilitas. Alors, Hugues Le Nohant, que certains connaissent, m'avait dit que puisque c'est au milieu d'un lac, ça devait être Humiditas, et qu'à cause de l'humidité, la petite boucle est tombée et qu'il est resté Humiditas. Enfin bref. Alors pour Saint-Léon, enfin Humilitas hein, et Moderatio. Moderatio, c'est typiquement bénédictin, avant Saint-Benoît, si j'ose dire, à cette période. Et nous avons de lui 96 sermons, ce qui est quand même pas mal, hein, et une correspondance de 143 lettres. On dit que c'est un excellent prosateur. Et de fait, quand on lit, nous, dans le bréviaire, ces sermons en latin, ils sont un peu plus durs que ceux d'Augustin, par exemple. Alors, notons aussi que le fameux sacramentaire léonien, vous savez, c'est au moment où on sort enfin, au moment de la paix constantinienne, la liturgie apparaître au grand jour, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait peu de livres, elle était célébrée dans des endroits discrets, etc. Et à ce moment-là, les églises se multiplient, le clergé devient plus abondant, et il faut commencer à réguler un petit peu l'exercice de la liturgie. Donc on rassemble les traditions. Et puis on commence à produire des écrits qui permettent à tout le monde d'avoir, par exemple à Rome, d'avoir les mêmes prières, les mêmes jours en fait. Et c'est ce qu'on appelle des sacramentaires, les sacramentaires qui réunissent par exemple les prières de la messe. Puis vous avez des antiphonaires pour les chants, des lectionnaires pour les lectures, etc. Donc il y a au moins trois grands sacramentaires dans l'Antiquité, dont le sacramentaire léonien, qui n'est pas de Saint-Léon, en fait, mais qui est probablement qui a été compilé à peu près à cette période par les responsables des basiliques, etc. Alors, Léon va intervenir à Chalcédoine. Donc, le Chalcédoine, c'est une petite bourgade d'Asie mineure, pas très loin de Constantinople. Où va se tenir un concile. Alors, il y avait eu un synode à Constantinople en 448. Vous vous souvenez que Eutychès, le moine dont je vous avais parlé la fois dernière, avait été condamné parce que sa doctrine consistait à dire qu'après l'incarnation, des deux natures, donc divine et humaine, il ne restait plus qu'une dans le Verbe devenu Christ. Vous voyez? Donc il y avait la nature divine, la nature humaine, et avec l'incarnation, il y a comme une troisième nature, en quelque sorte, qui est une sorte de synthèse des deux. Alors, Eutychès, condamné, se tourne vers Rome. Flavien, le patriarche de Constantinople, se tourne aussi vers Rome, et l'empereur Théodose II, qui règne à Constantinople, se tourne aussi vers Rome. Alors, du coup, Léon reprend cette affaire en 449, donc l'année suivante, il répond à Flavien, c'est la 28e lettre de sa correspondance, qu'on appelle le tome à Flavien. Pour donner son avis. Mais entre-temps, Eutychès avait été réhabilité par un concile. Flavien avait été déposé et il mourra en exil. Et les légats romains qui assistaient à ce concile avaient été molestés. Alors, et ça a lieu à Éphèse. Et en fait, Flavien mourra même d'ailleurs de ses blessures reçues pendant le concile. Et Le deuxième concile du Vatican, à côté, c'est très calme. Hein, il n'y a pas eu mort d'homme. Hein. Tandis que là, c'était, oui, là, c'était à coup de bâton. Hein. Et alors, oui. Alors, du coup, Léon parlera de latrocinium, c'est-à-dire de brigandage. Donc, il appellera ça le brigandage d'Éphèse. Et puisqu'il parle de brigandage, il refuse de reconnaître la validité de la déposition de Flavien, de la réhabilitation de Tychès. Alors, du coup, l'empereur convoque un nouveau concile. Donc, le successeur de Théodose II, qui s'appelle Marcien, convoque un nouveau concile que Léon, cette fois-ci, fait présider par ses légats. Et c'est ainsi le premier concile œcuménique à être présidé par Rome, en somme, même si le pape n'était pas présent. Donc, vous voyez, on a eu Nicée I, Constantinople I, Éphèse. Et là, le quatrième concile œcuménique, voilà, est le premier qui va être présidé par les légats pontificaux. Et donc, ce qui caractérise la christologie de Saint Léon, c'est l'idée de double naissance du Christ. Il est né non seulement de la Vierge Marie, comme homme, mais aussi du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que les deux natures sont communiquées à l'unique sujet qui les exerce. Et c'est très proche de la doctrine de Saint-Augustin qui parlait de una natura in utraque, una persona in utraque natura. Une seule personne dans l'une et l'autre nature. Une seule personne qui dans la nature divine et une seule personne qui agit dans la nature humaine. Et c'est ça qui va légitimer ce qu'on a appelé la communicatio idiomatum, la communication des idiomes, c'est-à-dire des choses propres en grec. L'unité dans la personne permet d'attribuer ce qui relève de l'une et de l'autre nature. Par exemple, on peut dire le Fils de Dieu a été enseveli, il est mort. Parce que il est mort dans sa nature humaine, mais comme c'est une unique personne qui est à la fois dans la nature humaine et dans la nature divine, en fait, c'est la personne qui vit ces événements. Et donc, on peut dire que ayant vécu cet événement dans son humanité, et que cette unique personne est aussi divine, eh bien, on peut dire que, en faisant attention, évidemment, que le Fils de Dieu est mort, a été enseveli, etc. Puisque, en fait, c'est une unique personne qui est le sujet de tout cela. C'est un peu le même raisonnement qui a permis de dire à Éphèse que Marie est mère de Dieu. Elle est mère de Dieu en tant qu'elle est mère de l'humanité, de celui qui est le Fils de Dieu, vous voyez. Voilà. Parce que sinon, effectivement, c'est hérétique, de dire, d'ailleurs les musulmans nous le reprochent assez, de dire Dieu ne peut pas avoir de mère. Évidemment, il ne peut pas avoir de mère. Mais il peut avoir de mère uniquement s'il s'est incarné et s'il est devenu homme. Comme là aussi, Dieu ne peut pas mourir, Dieu ne peut pas être enseveli, mais il le peut dans la mesure où il devient homme. Et que dans son humanité, il peut vivre cela. Alors, donc voilà. Alors, le concile de Chalcédoine va réhabiliter Flavien, en plus qu'il est déjà mort, dépose son successeur et va rétablir deux qui avaient été suspectés antérieurement dans leur doctrine. Vous vous souvenez, Théodoré de Cyre, eh bien, il est réhabilité une fois qu'on lui a brûlé tous ses écrits, et puis un autre, l'évêque de Édesse. Édesse, c'est une ville importante à l'époque, Ibas d'Édesse. Parce que c'est une ville qui était en dehors de l'Empire. Elle était parfois dans l'Empire, parfois souvent à l'extérieur. Et c'est probablement de là que nous vient la forme pliée du suaire, enfin du linceul de Turin. C'est en Syrie.
C'est
Enfin,
à côté de
Syrie-Irak,
nous.
par là. Ah oui, c'est oui, peut-être bien. Oui, ah ben voilà. À l'époque, c'était dans la province de Syrie. Alors, sur le plan dogmatique, Léon va dire que le Christ est vraiment Dieu et vraiment homme, contre le monophysisme qui disait qu'il est juste Dieu avec une apparence d'homme. Donc, assez proche, par exemple, de l'apparition d'un ange. Qu'il est composé d'une âme raisonnable et d'un corps, c'est-à-dire exactement la structure d'un être humain normal, alors que l'idée monophysite, c'était de dire que le logos animait simplement une chair, vous voyez, une chair, un corps, mais pas un être humain. L'idée de Léon, enfin disons de l'orthodoxie, c'est de dire que la personne divine va comment dire, être le sujet d'une âme humaine qui anime un corps humain. Vous voyez? Et alors que la position monophysite, c'était de dire, en fait, si la personne divine, elle se contente simplement elle se substitue à l'âme humaine. Vous voyez? Et donc, on n'a pas vraiment un être humain. Parce que pour qu'il y ait un être humain, il faut une âme humaine. Et du coup, c'est ce qui va permettre aussi de dire plus tard que en Jésus ne savait pas tout dès le départ. Parce que du fait qu'il avait une âme humaine, l'immensité de sa divinité était quand même filtrée par les limites de son âme humaine. Vous voyez?